Là, j'avais vraiment hâte de vous parler de ça. Nico nous en avait parlé parce que c'était le mois d'octobre où on lançait les festivités du 50e anniversaire de Disney World du côté d'Orlando. Ben, on a trouvé quelqu'un pour nous en parler, puis quelqu'un de très impliqué, graphiste, danseur, ensuite chorégraphe, consultant visuel pour les 12 parcs de Disney à travers le monde. Il est en studio avec nous. On reçoit Michel Pellerin. Monsieur Pellerin, bonjour.
Bonjour Stéphane.
De dire de vous que vous étiez un passionné de Disney, c'est plus qu'un travail.
Là. Ah oui, ben non, on peut pas dire un travail. Il faut toujours s'amuser. La journée où on commence à travailler, on est expulsé du parc, c'est sûr et certain.
Ah oui? Ah, oui. Mais ça commence comment? Vous étiez jeune et vous déjà étiez fasciné par tout ce qui était Disney?
Oui, ben mes parents étaient là à l'ouverture à Disney World en 71. Puis là, mes parents m'ont emmené là-bas. Puis moi, c'était la magie. En sortant de là-bas, je pleurais. Maman, t'es pas fine. Pourquoi qu'on s'en va? On va revenir. Fait que moi, c'était sûr que je voulais rentrer dans le parc. Alors, je suis rentré au départ par graphiste. Le film Dick Tracy dans les années fin 80.
Oui.
Alors, moi, j'ai travaillé en tant que graphiste sur le film Dick Tracy. Et puis après ça, j'ai été danseur. Et puis, les étoiles se sont alignées pour être chorégraphe. Il y avait vraiment 100 sélections qui étaient faites. On était réunis à Paris. On éliminait les gens. À la fin, il y avait 3 contrats. Et j'étais dans les 3 derniers. J'ai comme merci la vie. C'est tout jeune, oui, j'ai voulu être Disney. Et là, je suis là jusqu'à la fin.
Et oui, mais vous avez fait tous les efforts pour être là. C'était votre trip enfant. Puis après ça, vous avez dit, OK, faut se présenter aux entrevues pour être sélectionné.
Effectivement.
Donc, faut faire ces efforts-là.
Oui, il faut faire ces efforts-là, puis se préparer comme il faut, puis de jouer dans la magie, mais comme Disney voulait l'avoir. Alors, moi, c'était un visionnaire pour moi, ben pour tout le monde, en fait, mais je voulais m'identifier à Walter, puis suivre sa philosophie.
Pourquoi on doit penser que Disney est un visionnaire, Walter? Comment ça commence, son histoire? Entre autres, c'est son histoire à Orlando, mais qu'est-ce que lui a vu que personne d'autre n'avait vu?
Ben, on a commencé en Californie. Lui, il y avait un carrousel dans un petit parc qui était Griffith Park, et il amenait ses deux filles faire un tour de carrousel à tous les dimanches. Lui, il est assis sur son banc de parc, il mange ses cacahuètes, puis il regarde ses enfants.
Il fait quoi dans la vie à ce moment-là, lui?
Lui, il fait travail dans l'animation. Alors, lui, il a toujours voulu dessiner, et déjà, dès le départ, là, en 1928, là, on a Steamboat Willie, son premier dessin d'animation.
Oui, okay.
Et le visionnaire, c'est de non seulement faire des films d'animation, mais de mettre la voix dessus. On avait le chanteur de jazz qui venait de mettre de la voix. Le cinéma muet était terminé. Et lui, c'est le premier qui a dit, on va mettre de la voix, on va mettre du son aussi sur nos films. C'est comme, wow, c'est les premiers cartoons. Alors oui, c'était visionnaire, mais là, pour les parcs, c'est pas juste pour les enfants. Si moi, je suis assis sur un banc de parc, qu'est-ce qu'on peut mettre autour pour qu'on peut avoir d'autres attractions où toute la famille pourrait se réunir? Et c'est là qu'est née l'idée du parc d'attractions. Alors, on est en Californie, on a Disneyland en 1955. Ça va très bien, mais ça va très mal en même temps parce que tout le monde veut avoir la manne autour. Alors, toutes les compagnies, les hôtels, les restaurants, les bannières achètent les terrains autour et on met en captivité Disneyland. Et ça se reproduira plus ça. Dès l'ouverture. On va acheter des terrains en Floride. On va acheter tellement de terrains.
On va penser plus loin qu'à l'ouverture. Je sais que les stades de baseball, j'en reviens pas que vous expliquiez, je savais pas que c'était ça autour de Disney, mais par exemple, quand ils ont eu le projet de construire le nouveau stade de baseball des Yankees à New York, ils savaient qu'elle allait être pas tout à fait au même endroit, évidemment un petit peu à côté, mais ils avaient déjà pris, soit loué ou acheté les locaux autour pour être certain qu'ils se développent pas de restaurants ou tout, pour que les gens entrent dans le stade le plus tôt possible. Donc, Walter Disney a pensé à ça, lui, mais là, on est quasiment 100 ans avant,
oui.
Et il a agi comme ça. Donc, comment il choisit Orlando? Comment il choisit d'aller là et qu'est-ce qu'il fait en arrivant là-bas?
Mais en fait, il est du côté de l'Ouest, fait que c'est en Californie. Lui, il pense aux Américains pour commencer. On est dans notre pays. Puis à l'Est, il faudrait aussi à Ville du Futur, qui est Epcot Center, pour pouvoir réunir les gens puis faire la Ville du Futur. Experimental Prototype Community of Tomorrow. Je vais réunir tout le monde ensemble. Et là, il a acheté sur des compagnies bidons. Des gens ne le savaient pas. Il fallait pas que le monde sache que c'était Disney parce que le prix aurait été exorbitant. Alors finalement, à la fin, la grandeur de deux îles de Manhattan, si vous voyez la dimension, ça a coûté 5 millions. Alors, il y allait vraiment, là, c'était pas cher. Là,
c'est des peanuts, 5 millions?
C'est des peanuts, mais c'était des marécages. Là, on est vraiment, là, il a acheté des orangeries, des marais, là, vraiment des marécages. Là, on est dans la boue, mais il s'en est sorti. Mais là, il fallait 40 millions pour construire le parc, mais on s'en est très bien sorti. Mais tu sais, il a même mis son nom à l'envers, Walter, si on le vire à l'envers, ça fait Retlaw. Alors, il y avait le Retlaw Project, Orange Project, le Florida Project, même les gens pensaient que c'était la NASA qui voulait acheter les terrains parce qu'on disait la NASA va acheter d'autres terrains et placer tout ça. Il a passé à travers tout ça, mais là, à la fin, on n'a pas eu le choix. Il y a eu une fuite, comme dans toute bonne histoire. Là, il est obligé d'avouer, en 65, faire une conférence de presse, de dire oui, on s'en vient ici en Floride, mais on veut que l'Est des États-Unis puisse être avec nous.
Est-ce qu'au moment où il va ouvrir, donc il y a 50 ans, il y avait acquis les terrains de la grandeur qu'on connaît actuellement?
Oui.
Aussi grand que ça?
Oui, vraiment, deux îles de Manhattan, mais il a commencé tranquillement. On a commencé avec un petit Magic Kingdom, avec juste 12 hôtels, le Contemporary Resort, puis le Polynesian Village. Seulement 2 hôtels et un parc. Là, aujourd'hui, on a 4 parcs. Il y a plein d'hôtels. Il y a le terrain de golf. Il y a les parcs aquatiques. Mais c'était déjà prévu dans cette grandeur-là. Et 3 autres parcs thématiques. Alors, il avait acheté les terrains là, pour faire tout ça. Il y avait déjà tout ça au départ.
Est-ce qu'il y a eu des difficultés financières au départ? Vous dites que ça a pris quoi? 50 millions pour...
40 millions.
40 millions pour lancer ça au départ. Est-ce qu'il y avait les fonds et il y avait les appuis? Comment ça se passait?
Bien, au départ, il n'y avait pas les appuis, mais il y avait les acquis. En fait, ils ont vendu des droits, ils ont vendu des produits, des productions, des films, des droits d'auteur. Et ABC était là au départ pour les aider. Et là, quand il y a eu 2-3 gros noms, dont ABC, les gens ont embarqué, mais il a quand même réuni, a fallu vendre de ses droits d'auteur pour réunir 40 millions pour construire. Puis là, on se disait, tout d'un coup, qu'il y a une grève dans la construction. Vous devez nous garantir, parce que là, on a commencé la construction en 68. Ça veut dire que dans 3 ans, il faut avoir le parc, mais il faut pas qu'il y ait de grève, là. Alors, il fallait qu'il soit vraiment là. Puis lui, il est décédé en 1965. C'est son frère qui a repris le flambeau en disant, ben, ça devait être Disney World en l'honneur de mon frère. J'aimerais que ça s'appelle Walt Disney World au lieu de Disneyland. Alors, c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais il y a eu beaucoup de millions en jeu, mais il y a eu les appuis qu'il fallait avoir.
OK. Donc, lui, il n'aura pas pu voir le résultat de ses idées, mais son esprit semble avoir toujours perduré dans la façon dont il voyait les choses, parce que Disney semble avoir une vision puis qui encore aujourd'hui est très similaire à celle de départ.
Exactement. On suit la philosophie de Disney tout le temps, puis c'était là, tu suis vraiment le cœur de Walt. On est vraiment dans l'optique de sentir les 5 sens. On veut que quand tu viens à Disney, tu t'amuses, mais que tes 5 sens soient toujours en action. Donc, si tu rentres sur Main Street, tu le sais pas, mais il y a des vapeurs de popcorn, de bar à papa qui est envoyé dans la rue. Puis là, tu dis, oh, mais non, ça sent bon, c'est beau. On veut entendre de la belle musique, on veut voir quelque chose de beau, donc le contenant est très important.
Excusez-moi, vous dites, sont envoyés les vapeurs. Là, on parle des stands qui sont là ou on parle de vraiment quelque chose qui est créé et propulsé?
Qui est créé et propulsé.
Pas vrai, OK.
Quand vous regardez une parade Disney, tu dis, comment ça que j'ai aimé la parade Disney? Dans les chars allégoriques qui passent, il y a des sprays et on push. Si c'est la petite sirène, t'as des vapeurs vraiment là, de
marée basse.
De marée basse, là. C'est vraiment la mer salée, ça va être plus chic, mais la mer salée. Et là, tu dis, waouh, je me sens dans l'ambiance. Alors, c'est ça, les 5 sens. Être touché, sentir, goûter la saveur, vraiment, là, être enveloppé dans les 5 sens. Si t'as réussi ça, plus tu touches les 5 sens dans chaque attraction, tu as réussi la magie.
Mais comment on fait pour avoir toutes ces idées-là puis en même temps de les réaliser? Ça prend quelqu'un qui va trancher au bout, qui va dire, OK, ça coûtera ce que ça voudra, mais on va le réaliser, on va le faire. C'est qui est le grand Manitou de 65 à aujourd'hui, mettons, derrière ça? Est-ce qu'on peut identifier une personne?
Non, on peut pas identifier une personne. C'est des gens qui sont là, ben, tu sais, comme aujourd'hui, si on parle des défilés, on va dire, bon, OK, c'est Steve Davidson qui prépare tout ça, mais bon, on oublie les noms de famille parce qu'on s'appelle que par nos prénoms. Walt, tu voulais qu'on s'appelle que par nos prénoms, mais c'est une collectivité. Alors, on va chercher les bonnes personnes, on les appelle les Imagineers, et là, les gens travaillent comme si nous autres, on était ici, vous réalisez la magie du FM 93, mais vous êtes une équipe qui est là, où t'es là, tu chapeautes toute ton équipe, mais c'est un soutien, tout le monde. Alors, il n'y a pas un nom qui est là pour dire, c'est moi qui ai fait ça. Non, c'est tous les cast members ensemble, puis à cause des cast members, il y en a plusieurs, on est là pour réaliser la magie.
Alors, et c'est pour ça que vous vous promenez dans les 12 parcs, ce qui amène, est-ce qu'on veut une certaine cohésion, ou vous voulez plutôt s'adapter à chacun des endroits où il y a un parc Disney?
Ben, c'est sûr qu'il faut s'adapter, hein, au niveau du vent, la culture, les gens qui sont là. Quand j'arrive à Shanghai Disneyland, c'est pas la même chose, puis je travaille pas de la même façon, du côté de la Californie. C'est complètement différent. Mais on a quand même, oui, vraiment une cohésion de regrouper tout ça, puis dire, ça, c'est le code d'éthique. Vous dérogez pas de ça, puis ça va être une réussite. Si je te donne le code de la recette du succès, si on le suit dans tous les parcs, on suit les items, on fait un checkpoint, puis on va réussir.
Est-ce qu'il y a déjà eu des échecs? Est-ce qu'il y a déjà des idées? On dirait que si on essaye ça, puis on efface, puis on recommence.
Oui, il y a des échecs, des spectacles qui vont dire on pense que c'est la bonne chose, puis le public ne réagit pas comme on pensait, mais on doit réagir immédiatement. Ce que vous savez pas, c'est que quand vous regardez un spectacle, il y a des gens de Disney qui sont dans la foule aussi. On regarde le spectacle, on fait, il me semble, à 2 minutes, les gens réagissent pas. Mais il semble qu'il n'y a pas d'interaction à 3 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Faut changer ça maintenant. Alors, à toutes les représentations, il y a des notes qui sont prises, puis là, maintenant, on fait des changements au fur et à mesure, au lieu de faire une production globale, puis finalement, on dit, c'est un flop monumental. Alors oui, il y en a eu dans les anciennes années, mais finalement, on essaye de rectifier.
Vous vous adaptez tellement rapidement que vous êtes corrigé, vous corrigez les choses qui pourraient moins plaire et pour modifier tout ça.
Exactement.
Maintenant, est-ce que les... Oui, Nico, t'avais-tu...
Est-ce que la pandémie a été la pire période pour Disney?
Oui, la pire période, parce que, écoute, bon, le 15 mars 2020, nous, les 12 parcs de la planète sont fermés en même temps. Alors, ils ont essayé de réouverture selon les règles sanitaires. Disneyland en Californie a été fermé même plus qu'un an. Là, tu sais, c'est 400 quelques jours.
C'est jamais arrivé dans l'histoire.
Là, tu sais, je veux dire, une fois tu fermes parce qu'il y a un ouragan, parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui est arrivé, de la température. Mais la pandémie, c'est un an de plus. Alors, les employés ont fermé. Tu sais, je connais des familles que le papa et la maman se sont rencontrés au parc. Ils travaillaient les deux ensemble. Mmh. Ils ont eu 3 enfants. Ils restent à la maison. Le papa, la maman, les 3 enfants, ils travaillent à Disney. Ils perdent tout le job. C'est toute la famille au complet qui perd le job. Nous, dans l'entertainment, je suis encore ici. Je devrais être à Paris présentement, mais finalement, on attend parce que l'entertainment reprend tranquillement, pas vite. Les spectacles reprennent à la goutte, puis on fait attention à tout ça. Mais la vérité, c'est que Mickey Mouse, il est là, puis vous fait des beaux babayes, vous êtes content, le contenant est là. Moi, j'ai pas besoin d'y être pour l'instant pour dire à Mickey, tourne donc à gauche, lève donc ta main un petit peu plus haute. On est juste content de voir Mickey.
Je comprends, mais c'est pas à pleine capacité. Là. À travers tous les parcs, là, on est encore, selon les endroits, mais on est encore à formule un peu plus réduite. Là.
Exact, mais ça s'en vient tranquillement, pas vite. On est passé de 25% à 75-80. Là, on est vraiment presque proche. Je peux pas vous dire le pourcentage, là, mais on est vraiment proche de la bonne capacité.
Là. Et là, la pandémie vous aura peut-être donné le temps de dire, OK, ça va être notre 50e du côté d'Orlando. On fait quoi? Vous avez... Il me semble que la page est complètement blanche, puis vous aviez place à beaucoup de choses, ouais. Beaucoup d'imaginaire à mettre là-dessus.
Mais je vais te reprendre. La page n'était pas vide. La page était pleine il y a 10 ans de ça pour préparer le 50e anniversaire.
Oui, okay.
Et il y a plein de choses qu'on pouvait pas faire, des attractions qu'on n'a pas pu mettre en place. Il y a Mary Poppins qui devait être là au pavillon de United Kingdom qui devait être là, mais il y a plein d'attractions qui ont été retardées. Ratatouille, ils viennent tout juste d'ouvrir au pavillon de la France, mais ça fait longtemps que Ratatouille devait être en action. Alors, on a des activités quand même là qui fait... Est-ce qu'on fait le tour des parcs, présentement pour voir tout ça?
Premièrement, est-ce que il y a une différence en y allant l'année du 50e versus là il y a eu la pandémie, mais quelqu'un qui est allé il y a 5 ans, il va vivre quelque chose de très différent grâce à l'année du 50e.
Exactement, ça va être différent, mais la magie de Disney va toujours être la même. Même si c'est un nouveau spectacle, on va avoir la magie qui est là quand même. Alors dans les 4 parcs, on a prévu un spectacle différent dans chaque parc. Alors si on va au Magic Kingdom, on a le retour du Let the Magic Begin le matin pour le spectacle d'ouverture, pour que les gens puissent entrer et vivre la magie avec tous les personnages Disney. Et le soir au château, les nouveaux spectacles maintenant où on fait du mapping qu'on appelle, on projette sur le château, il y a des effets laser, les effets avec les jets d'eau et les feux d'artifice, donc le spectacle qui est là en branle, Enchantment. Et puis finalement, si on va du côté de Hollywood Studio, on a la même chose sur le Chinese Theater où on présente The Wonderful World of Disney, of Animation en fait, et puis c'est toutes les 90 ans de l'animation qui est projetée et Mickey, tout a commencé avec une souris, hein, Mickey qui devait pas s'appeler Mickey mais Mortimer au départ, heureusement qu'on a changé le nom. C'est son épouse qui a dit, tu vas pas appeler ta souris Mortimer, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu penses de Mickey? Ah, c'est une bonne idée, on va l'appeler Mickey Mouse.
Et
c'est
fait que ça venait de la femme à Walter.
C'est la femme de Walter. On voit ça à Lily qui a trouvé ce nom-là. Et puis, finalement, si je vais à Epcot, on a le nouveau spectacle Harmonious qui est le soir sur le lagon. Alors, on a vraiment 3 grosses plateformes avec toute la magie Disney qui est là. Et du côté de Hollywood Studios, non, j'ai parlé de Animal Kingdom. On a le retour de Festival of the Lion King, mais on a The Kite Tales, qui est un spectacle avec des immenses cerfs-volants en promenant avec des motos marines, des Sea-Doo, qui promènent des cerfs-volants immenses sur le stage, mais le lagon.
Comment vous faites pour mettre en place quelque chose qui va savoir plaire à tout le monde. Parce que là, vous le savez, j'imagine que vous avez une idée de la clientèle type que vous devez émerveiller, qui est le petit gars puis la petite fille de 8, 9 ans, 10 ans, je sais pas trop. Et ensuite, vous avez des parents qui accompagnent ces enfants-là, puis que vous pouvez pas non plus laisser de côté. Comment vous faites pour répondre à toute la clientèle, aussi vaste soit-elle, de chez Disney?
On les retient par le cœur d'enfant. Alors, ton petit cœur d'enfant, quand tu vas là, il va vraiment là être épanoui, puis là, tu retrouves ton enfance. Alors, tu es à la même âge que tes enfants qui sont là. Alors, finalement, j'ai pas besoin de faire quelque chose de plus pour toi. Oui, je vais avoir des attractions, mais avant, c'est que les gens voulaient savoir comment ça se passait. On n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Là, les gens, ils veulent avoir des sensations fortes et les enfants aussi. Alors, on est rendu au même niveau, que ce soit les enfants ou les adultes. Donne-moi du power, donne-moi de l'adrénaline. Je veux que ça roule. Alors, finalement, on vous rejoint au même endroit.
Ben, moi, c'est ce qui m'avait frappé, là. Dans chacun des parcs, il y avait deux ou trois manèges très, très hautes. Donc, il y avait une sensation vraiment plus pour adultes. Puis, il y avait des parcs aussi pour les enfants, selon leur âge et leur grandeur, plus que leur âge, là, mais c'était vraiment comme ça et c'était bien adapté ainsi. Il y a une affaire qui m'a gossé, moi. Parce que je suis un grand désorganisé, il faut vraiment bien prévoir et bien planifier une visite à Disney, parce que si tu veux aller au restaurant, si tu veux voir un des spectacles, vous nous avez parlé de plusieurs spectacles, que tant qu'à y aller, je veux les voir, des spectacles uniques pour le 50e, est-ce que c'est encore la même chose, ou il faut vraiment bien préparer notre voyage en réservant chacun des soirs et chacun des spectacles que l'on veut voir?
Il faut bien préparer, mais on n'est pas obligé de toujours réserver, parce que là, les gens veulent tellement réserver. Présentement, là, si tu attends en ligne, parce qu'ils disaient, prenez l'application pour avoir votre nourriture au bon moment. Finalement, il y avait une file d'attente d'une heure et demie de retard, je suis obligé de le dire, pour avoir ton repas. Si tu n'avais pas réservé, tu passais la file à côté, tu prenais ton lunch et puis finalement, tu partais puis tu avais eu ta nourriture en 5 minutes. T'sais. Alors, les gens veulent tellement aller sur les applications et je vous dis, laissez-vous aller par le oui, c'est, oui, il faut planifier quand même. Aujourd'hui, on va aller à tel parc. Aujourd'hui, voici mon target. Et après ça, informe-toi comment je peux m'informer, comment je peux procéder pour pouvoir avoir accès à toutes ces attractions-là. Mais t'es pas toujours obligé. Moi, je suis vraiment du genre, si je suis pas un cast member, si je suis un guest, je me laisse aller par le vent, là. Aujourd'hui, je vais là. On va là. Ça va bien. On suit la file. Puis, finalement, des fois, les files d'attente sont moins longues dans le naturel si t'as pas pris de réservation que si tout le monde réserve puis ça surcharge. Oui, il y a des lignes virtuelles puis les gens aiment ça réserver d'avance. Mais vous pouvez y aller sans.
Librement, oui, c'est faisable.
Mais il faut avoir quand même une planification. Tu veux, faut que tu te donnes un target. Il faut que vraiment que tu lui dises aujourd'hui, j'ai un but à atteindre et je veux le faire, par contre.
OK. Avec des enfants entre, mettons, 8 et 12 ans, combien de jours on devrait planifier? J'allais pas dire tout voir, parce que tout voir, c'est à peu près impossible, là, mais pour faire une belle visite de ça, puis sans non plus que ce soit complètement hors de prix, on peut planifier combien de temps?
Ben, on dit toujours une semaine, c'est le minimum, mais tu sais, je veux dire 5 ou 7 jours, là. Tu sais, 5 jours, on peut s'en sortir puis passer un bon séjour à Disney avec 5 jours. Fait qu'au moins, dans les 5 jours, on a fait les 4 parcs, on a pris un peu de congé à travers tout ça, puis on a donné un rush le soir, on peut retourner à l'hôtel. 7 jours, c'est mieux, c'est une semaine. Si vous avez les moyens, allez-y pour 2 semaines, on va vous transmettre de la magie pendant 2 semaines. Mais majoritairement, on va dire que les gens prennent un 5 jours ou un 7 jours pour vraiment avoir la sensation de dire on y est allé, ça valait la peine et on est content.
Est-ce qu'il y a des fois, on vous dit, c'est hors de prix ou c'est un peu dispendieux? T'sais, nous, au Québec, par exemple, c'est sûr qu'il y a le vol à ajouter, mais au niveau des prix, c'est très concurrentiel avec les parcs du même genre ou si le même genre existe?
Oui, c'est concurrentiel. Mais c'est sûr que si on parle en 1971, c'est le 50e anniversaire, ça te coûtait 3,50 $ rentrer à Magic Kingdom. Aujourd'hui, ça coûte 109 $ rentrer dans le parc. Mais là, on a 4 parcs, par contre. Alors aujourd'hui, on parle de 109 $ US. Si vous voulez faire le park hopper pour pouvoir aller dans tous les parcs dans la même journée, faut ajouter un 85 $. Mais on parle de 3,50 $ en 1971.
Michel, on voit que vous êtes animé par la magie de Disney, disons-le comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Question plus personnelle. Qu'est-ce que vous faites les journées, si ça arrive, où la magie est pas là? On vous sent très animé, on vous sent très propulsé par l'expérience Disney. Vous fitez bien avec le sujet et l'employeur. Est-ce qu'il y a des journées où tout le monde a des journées off, tout le monde a des journées down? Vous faites quoi pour retrouver cette magie-là?
isolation, reculer pour refaire l'énergie, pour me remettre dedans, puis revenir pour vous retransmettre de la magie. Parce qu'à un moment donné, les batteries, ça descend, même mm-hmm. si je suis vraiment over avec vous aujourd'hui, je suis comme, yeah, la magie!
J'ai une dynamique, c'est incroyable.
Mais il y a un down, c'est sûr et certain. Mais pour retrouver quand même la magie, si mon down où je suis là-bas sur une journée de congé, je vais quand même retourner dans les parcs. On peut pas s'en sortir. Je retourne, j'y vais, je regarde les gens, comment ils s'activent, comment ils bougent. Puis là, ça me donne l'énergie, oui, de voir les gens qui sont heureux, mais pendant qu'on est dans l'action, on n'a pas le temps de savoir vraiment si vous êtes heureux ou non. Sont-tu correct? Ça marche-tu? Ça fonctionne-tu? Vite, checklist. Là, au moins, j'ai le temps de vous regarder, m'asseoir sur un banc de parc comme Walter, puis de vous regarder avoir du fun, puis de dire, oh, on a réussi.
C'est là qu'on analyse aussi si ça va bien, ce qui marche.
Mais on a besoin de se remplir l'énergie.
Est-ce
là,
que vous logez dans les hôtels des parcs?
C'est quand tu es quelqu'un de Disney, un cast member qui va là-bas, il y a des sites pour les employés qui restent là-bas. Mais dans la condition où je suis, parce que là, on est dans l'entertainment, je suis pas vraiment dans les habitations où ce que les cast members restent. Je suis à l'hôtel. Souvent, moi, c'est le French Quarter. Alors, je m'en vais à cet hôtel-là, puis j'ai toujours ma petite chambre, puis je suis super content. Je suis très heureux d'être là. Puis s'il y a pas de chambre de disponible, ben, on va nous loger quand même dans les habitations des cast members. Quand je parle de ces habitations-là, c'est les gens qui travaillent dans les pavillons, qui travaillent au restaurant, qui sont pas dans le monde du spectacle, sont réunis dans des habitations Disney. Mais si on est quatre, on veut pas réunir quatre personnes de la même nationalité. Alors, on sera un Allemand, un Italien.
Vraiment, beaux couples.
Oui. Mais en fait, c'est juste pour mélanger. C'est ce que Disney voulait, en fait. Là, tu sais, à Epcot, on voulait vraiment réunir toutes les gens à travers le monde, puis toutes les générations et vraiment toutes les nationalités et les cultures pour pouvoir vivre des belles choses.
C'est qui votre compétiteur? Est-ce que, mettons, si on veut dire, on veut voir, parce que là, il y a 10 ans, vous prépariez déjà le 50e, j'imagine que vous regardez, est-ce que, là, le Cirque du Soleil, ça a été plus difficile?
Puis, il n'y a plus d'Expo Québec.
Expo Québec est fermé. Qu'est-ce que vous regardez pour vous tenir à la page et toujours voir en avance?
En action, on n'a pas le choix. C'est sûr que je suis obligé de parler si on parle de la Floride parce que tu poses la question, je suis obligé de répondre. C'est Universal qui est juste à côté de chez nous. Alors, tu sais, on a vraiment le parc qui est là, que tout le monde de Harry Potter, mais je vais pas aller plus loin que ça.
Donc vous les observez.
Tout le monde s'observe, eux autres aussi. Il y a des espions qui se promènent. Tout le monde va voir l'autre. Puis on essaye de l'activer. Puis l'autre a fait sa parade. Puis l'autre a fait ça d'une autre façon. Des anciens cast members qui étaient de Disney qui vont de l'autre côté. C'est sûr que tout le monde se trafique et essaye d'avoir la magie du maximum. Mais
c'est la
mafia de Disney.
Si je vous demandais dans les 12 parcs, lequel est votre préféré?
Moi, je vais dire Disneyland Paris parce que c'est ma maison mère, c'est chez nous. Mais pourquoi Disneyland Paris? C'est pas le plus grand, mais c'est vraiment, Disney aimait la richesse européenne. Puis vraiment, quand on va là, si je vais aux États-Unis, j'entends parler anglais, mais anglais à l'américaine. Tout le monde parle pareil. Là, t'es là-bas, à Paris, t'entends vraiment des gens, des Allemands qui sont là, les Italiens, les Espagnols, toute la richesse du langage qui est là. Et c'est ça que Walt voulait. Donc, quand on embarque dans l'attraction It's a Small World, où on a tous les de tous les pays. On le live à Paris. On a tous les
gens. En anglais? Est-ce que les gens qui travaillent là, ça se fait en anglais à Paris ou on est en français ici?
Si on va à Paris, ça parle français et anglais. On a les deux pour réunir tout le monde. Mais vraiment, les cast members qui sont là souvent parlent 4, 5, 6 langues pour réunir tout le monde. Mais on a vraiment, on dit une phrase. Quand on fait un spectacle, il y a une question qui est dit en anglais dans le spectacle. La réponse est en français ou vice-versa. Vous allez le voir si vous prenez l'attraction Ratatouille. Vous allez aller là, en Floride, puis vous allez entendre les textes moitié anglais-français. Alors, tout le monde s'y retrouve. Si t'as pas compris ce que c'est en français, par la réponse, tu comprends c'est quoi l'histoire.
Okay.
Mais à Paris, vraiment, le français est la priorité. Mais tous les langages du monde se retrouvent là et c'est magnifique.
Et vous, Michel, vous travaillez sur quoi actuellement?
Là, on est en train de préparer le 30e anniversaire déjà de Disneyland Paris.
Okay.
Alors, je veux pas bypasser le 50e anniversaire. Il faudrait y revenir. Il y a déjà encore plein de choses qu'il faut dire sur le 50e. Mais le 30e anniversaire, c'est en 1992 que Disneyland Paris a ouvert ses portes. Et là, on travaille là-dessus.
Déjà là-dessus. Bon, moi, je suis porte-parole de Club Voyage Montmagny-Saint-Jean-Chrysostome. Ils ont, et je sais que dans la plupart des agences, ils ont des spécialistes. Il y a des spécialistes de Disney. Quelqu'un qui voudrait justement s'informer sur qu'est-ce qu'il y aura de spécial vu que c'est le 50e, quelle est la meilleure date, et quel hôtel choisir et tout ça. Est-ce que ces spécialistes-là, comme chez Club Voyage Montmagny-Saint-Jean-Chrysostome, ont un référent différent chez Disney pour les aider et compléter à réserver tout ça?
Oui, toute agence de voyage a une référence là-bas à Disney pour pouvoir avoir des contacts. Il y en a qui en ont plus que d'autres, mais vraiment avoir les références pour pouvoir avoir les meilleures dates, avoir les meilleurs prix, avoir les meilleurs forfaits, en fait, pour pouvoir aller là-bas. Alors, peu importe l'agence de voyage, celle que tu as nommée ou d'autres, de prendre une agence de voyage, c'est toujours mieux que de l'organiser par soi-même, parce que là, on peut être un petit peu dans le trouble.
Je vous disais tantôt... Oui, vas-y, Nico, vas-y.
Est-ce que, Michel, Disney résiste à la vague de manque de personnel qui est un peu partout et dans toutes les industries?
C'est très difficile, vraiment. Puis là, même, on en a du personnel d'over. Comme moi, je suis un cast member, je suis pas à Disney présentement, mais je peux pas faire... tu sais, j'ai ma spécialité à moi, que je peux pas faire ce qu'un autre cast member fait, mais c'est difficile quand même de trouver les gens. Alors, faut être patient, puis on le demande tout le temps aux gens. Si on rentre dans un magasin, ben si habituellement, il y a 20 staffs sur le plancher, ben quelquefois, sont 12. Quelquefois, on essaie d'aider, mais nous aussi, là, on essaie de... Bon, ben, je vais faire du surtemps, je vais y aller avec vous, puis on va s'entraider, mais c'est vraiment difficile.
Donc, le corollaire de ça, c'est que si on voulait travailler pour Disney, c'est peut-être la meilleure période dans l'histoire.
Ah oui, comme tout autre travail, vous pouvez trouver une place pour travailler chez Disney, effectivement. Il y a des programmes, les programmes culturels, les gens, il y a plusieurs Québécois, je salue les cast members québécois qui sont non seulement au Walt Disney World, mais qui ont fait aussi un peu le tour de la planète. Vraiment, là, pour des étudiants qui veulent avoir cette culture-là, cette richesse-là, c'est disponible pour tout le monde.
C'est ça, c'est une vie en soi d'être un cast member, de travailler pour la gang à Disney, parce que ça doit pas être la job la plus payante qui soit nécessairement. Hein? C'est vraiment, faut que tu tripes et que tu veuilles embarquer là-dedans, mais en même temps, ça peut t'amener à découvrir plein de choses.
Exactement. On le fait pour le partage de cette philosophie-là, partager l'héritage de Disney, qu'est-ce qui nous a transmis pour aller là-bas, mais vraiment, là célébrons le 50e anniversaire.
Parce que ce que Michel Pellerin nous explique, là, tu vous le disais, puis Pascal, je l'ai dit dernièrement, mon chum Marco Prévost, là, qui avait sa maison à Orlando, eux, lui et sa femme, étaient des membres, je sais pas comment on s'appelle, mais il y avait une passe annuelle pour aller à Disney, puis le vendredi soir, il allait souper dans un des restaurants Disney. Eux autres, c'était pas d'aller faire des manèges tout le temps, c'était d'aller s'asseoir et c'était comme leur centre-ville à eux, mais en même temps, en tripant sur la magie de Disney. Puis ils m'en parlent parce que à Pintan, c'est un peu moins magique.
Un peu moins Disney.
L'ambiance est différente.
Hey, mais tu parles de Pintan, puis moi, je me demande pourquoi on n'a rien. C'est-tu parce que économiquement, ça serait pas rentable? On n'a rien au Québec, on n'a rien Canada, au Canada, si je me trompe
l'hiver.
Pas.
Ouais. C'est la saison, oui, c'est ça. Même Disneyland Paris, c'est à la limite parce que là, il n'y avait pas tant de neige.
Mais la Reine des Neiges et tout, on pourrait pas jouer avec ça un peu?
Oui, il faudrait vraiment que ça soit un centre. C'est comme ici, on a l'hôtel de glace ou des choses comme ça. Alors, faudrait que... Mais vous savez que la Reine des Neiges, parenthèse, sont vraiment descendus ici avant de faire le dessin animé. On est allé à l'hôtel de glace pour voir comment vraiment la réaction en vrai, qu'est-ce que c'était la neige, la réaction du soleil par rapport à la glace. Oh. Et les designers Disney sont tous venus à l'hôtel de glace pour faire du design et travailler le film d'animation. Vraiment, le Québec fait partie un petit peu de la Reine des Neiges.
Bon, ben moi, j'ai fait un saut ce matin parce que, je vous l'ai dit, je suis un gars désorganisé. Quand j'ai vu que vous alliez être en studio, je comprenais pas, là. Je m'attendais à vous avoir au téléphone. Qu'est-ce qui vous rattache? Vous êtes de Québec? Vous habitez Québec à travers tous ces voyages-là?
Oui, parce que je suis pas toujours là-bas. Là. Je fais partie d'un des cast members qui est là pour l'entertainment. Alors moi, c'est pour la spécification d'un spectacle. Une fois que le spectacle est terminé, je reviens au Québec pour travailler autre chose, puis je vais y aller plus loin. Et moi, je fais le tour des parcs. Alors, faut toujours qu'on me ramène à un point de départ. Alors, moi, je suis à Québec depuis 1994. Alors, les défilés que vous voyez à la télé, le défilé du Père Noël, moi, je travaille là-dessus. Les défilés du carnaval, les gros spectacles du carnaval qu'on a eu il y a quelques années, j'en fais partie et j'ai participé à l'organisation.
Donc, vous aidez ces gens-là. C'est pas juste Disney.
Mais là, les fêtes de la Nouvelle-France, toutes les activités qu'on a ici. Alors, moi, j'ai travaillé sur de gros spectacles ici au Québec. Et puis, c'est ça. C'est comme le Cirque du Soleil. On va transmettre notre magie à Disney. Puis, Disney aime ce qu'on a ici, les Québécois, et on vient chercher la magie de ces Québécois-là pour pouvoir transmettre la magie.
Alors, on voudrait dormir un peu aussi, là.
Oui, oui, mais vous nous donnez vraiment le goût d'y aller. C'est assez exceptionnel. Fait que ces festivités-là du 50e anniversaire ont débuté au début du mois d'octobre, et j'imagine que ça dure jusqu'à la fin septembre l'an prochain?
Non, on va aller pour 18 mois. On va aller jusqu'en avril 2023. Fait que prenez la chance. Il va y avoir d'autres choses qui vont s'ajouter. On a des attractions qui s'en viennent vraiment là, dans tous les parcs. Là, je veux dire, on pourrait passer une autre demi-heure à parler de toutes les attractions qui vont arriver, mais surtout Ratatouille qui est là présentement là à Epcot Center. Allez voir cette attraction là, vous allez aimer ça. Mais il y a plein de roller coasters, des grosses montagnes russes qui s'en viennent là vraiment. Là, il y a Tron qui va arriver bientôt, Guardian of the Galaxy.
On
va
avoir donc on attend un peu par exemple. Oh, tu sais, je comprends que vous nous invitez à y aller, mais tu sais, si mettons on est deux chums dans la vie, vous me diriez attends d'y aller peut-être un peu plus après les fêtes ou quand il y aura une installation complète de tout ça. Là.
Ouais, ouais. Puis on va vous le dire. Écoute, si vous suivez le podcast de Disney, si on est sur le voyons destination WDW avec mon ami Jean-Philippe, vous allez pouvoir avoir tous les détails si vous voulez continuer à suivre et avoir l'histoire détaillée de tout le 50e au complet, tout ce qui s'est passé pendant 50 ans.
Il y a des podcasts en français de disponibles.
Oui.
Ah oui, je savais pas ça, c'est bien malade.
Destination WDW qui est géré par Jean-Philippe et c'est des gens qui sont de Québec aussi. Alors allez sur le podcast, vous avez la série En route vers le 50e et vous allez y revivre toute l'histoire des 50 ans. On a un épisode par année. Alors je fais ça avec Jean-Philippe, fait que vous allez pouvoir partager cette magie.
Ben c'est bien malade ça, c'est bien cool. Ben merci beaucoup d'être venu nous voir, c'est intéressant hein, de découvrir la magie de Disney. Ben Nico, fait que Vest, ton cœur d'enfant, es-tu revenu à la surface?
Ben j'ai toujours un cœur d'enfant, mais encore plus ce matin. Oui.
Alors
oui,
ben comme tous les cast members, je vais vous dire have a magical day, on vous attend, on veut partager la magie avec nous, venez fêter le 50e anniversaire, on vous attend.
On va y aller, merci beaucoup. C'était Michel Pellerin, donc consultant visuel chez dans les 12 parcs de Disney World.
Il y a plein de gens qui saluent Monsieur Pellerin au 25226 parce qu'ils ont soit fait partie de vos cours de danse, ça se peut-tu, il y a quelques années, ou leurs enfants.
Ah oui!
Ils disent que vous avez la même passion hors Walt Disney que dans,
dans la danse.
Ben, ça me fait plaisir. Ben oui, j'ai enseigné la danse longtemps. J'enseigne encore la danse. Je suis chez ADN des Gagnés. Alors, si vous voulez continuer à suivre des cours de danse, venez nous voir, ça va nous faire plaisir.
De danse comme...
Toutes les styles cette de carré, danse. Oui, de la gigue québécoise, de la claquette américaine.
Danse en ligne.
Du ballet. Non, pas de danse en ligne, par contre. Mais toutes
est-ce
les styles de danse.
Est-ce qu'il y a
du soivé? Il y a du soivé. Ben venez, on va soiver ensemble.
On va soiver. On va trouver. Merci beaucoup, Michel.
Un grand plaisir, Stéphane.
Michel
merci.
Pellerin.
Bonne journée à vous.
On vient dans un instant. Vous êtes dans Dupont le matin.